Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans un instant, à nos côtés, un trio exceptionnel, Patrick Dempsey, Jean-Jacques Hano et Joël Dicker. Le roman best-seller de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kébert, devient une série réalisée par Jean-Jacques Hano avec Patrick Dempsey dans le rôle principal. C'est à découvrir sur TF1 à partir de demain soir. Un nouveau talent dans l'actualité musicale, il s'appelle Tamino, il a 22 ans, il est belge. On découvrira son univers et son premier album avec Steven Bellery qu'il a rencontré. Et puis à la télévision ce soir, Kylian Mbappé sera au cœur d'un documentaire diffusé sur M6 dans la foulée du match amical France-Uruguay. Ce sera le choix d'Isabelle Morelli-Bosse.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bonjour Joël Dicker, bonjour Jean-Jacques Hano, bonjour Patrick Dempsey.
Bonjour.
Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. Comment vous sentez-vous à la veille du démarrage demain de cette série de 10 épisodes? Fébrile, excité, je ne sais pas à qui il faut poser la question, aux comédiens, aux metteurs en scène ou peut-être, tiens, allez, à l'auteur.
Moi, je suis très excité et en même temps, c'est pas ma série, c'est pas mon film. Donc, ouais. J'ai une forme de trac qui est inhabituelle parce que je défends quelque chose qui est directement lié à moi. Ouais. Et en même temps, je ne suis pas l'auteur ni l'interprète. Et je suis curieux de savoir comment Jean-Jacques se sent, par exemple.
Vous restez un émotif, vous, dans ces moments-là?
Non, parce que si vous voulez, ça fait des milliers de fois que je vois ces images en compagnie des doubleurs, en compagnie des monteurs. Et je suis très heureux de cette série. Donc j'aborde ce moment avec joie, excitation, plaisir.
Patrick Dempsey.
Pour moi, c'était probablement la plus belle expérience que j'ai connue depuis longtemps. Vous savez, quand les gens se lancent dans une série, on espère que le public en fasse de même. Le livre s'est d'ailleurs très bien vendu déjà. Et ce que j'espère, c'est que les gens apprécieront aussi.
Alors, c'est un événement très important. À mes côtés, Stéphane Boutsock, le monsieur cinéma d'RTL et Laurent Marsic. Bonjour Laurent. Vous avez vu les premiers épisodes de cette série.
Oui, racontez. 10 épisodes résumés de 670 pages de votre roman, Joël Dicker, dont l'action débute à New York au printemps 2008. J'ai dévoré les 4 premiers épisodes avec gourmandise. C'est prenant, dès le départ, avec une atmosphère qui me rappelait une autre série, Twin Peaks, pour cette façon de nous emmener vers l'inconnu. Pour l'image, votre image, Jean-Jacques, travaillez, c'est très pictural. Parfois, vous avez éteint les arrière-plans, vous avez coloré aussi les arrière-plans. J'ai totalement retrouvé l'histoire du roman, même s'il y a de grandes libertés, celle de Marcus Goldman, un jeune écrivain à succès, incapable d'écrire un nouveau roman, que lui réclame avec menace de procès son éditeur, et dont la vie va basculer. Son ami et professeur d'université, Harry Kébert, vous, Patrick Dempsey, l'un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d'avoir assassiné en 1975 Nola Kellerghan, une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de l'innocence d'Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire, à Somerdale, et mener son enquête. Extrait.
Je savais qu'elle avait 15 ans, je savais que c'était mal, mais je l'aimais. Quand on est amoureux de quelqu'un, on ne pense pas à son âge. Elle était pleine de vie, intelligente, généreuse. Il fallait que j'arrête ça. Il le fallait.
Joël Dicker, votre roman est déjà à la base très cinématographique. Du coup, ce passage à la télé, est-ce que c'était une transition naturelle pour vous?
Moi, j'ai dit quelque chose qui est très important pour moi, c'est que j'ai écrit un livre que vous pouvez acheter et lire. Jean-Jacques a fait une série, a fait un film qu'il faut voir comme un film ou comme une série. Je dis un film parce que tu me diras Jean-Jacques, mais c'est imaginé comme un très très long film. Mais il faut se concentrer sur le film. Et il faut juste pas commencer à faire des comparaisons et se dire est-ce que je vais retrouver. Vous avez été lecteur, vous avez eu des sentiments de lecteur qui sont vos images à vous. Maintenant, laissez-vous emmener par Jean-Jacques, par Patrick, par tout le cast, et laissez-vous prendre par ça.
Vous avez fait une petite apparition?
Non, non, au fond, à gauche, vraiment derrière. j'ai supplié Jean-Jacques.
Mais trois fois.
Trois fois.
J'ai supplié. On va faire un jeu, d'ailleurs. Voir où les gens te reconnaissent.
Oui,
on voit trop. Il est habile, ce Jean-Jacques Hano. Patrick Dempsey, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Vous connaissiez, bien entendu, avec Jean-Jacques Hano. Hein.
Certainly a fan of his work.
Bah, j'admirais son travail, bien sûr. Lorsque j'ai reçu son mail,
and I saw Jean-Jacques.
Oui, j'ai vu le nom de Jean-Jacques, évidemment, ça fait clic tout de suite. J'avais tout de suite envie de voir de quoi il s'agissait. Et c'était un thriller un peu. Et puis j'ai appelé mon agent, j'ai pris l'avion, et puis on s'est vu tout de suite. En 24 heures, c'était bouclé. Initialement, c'est quelque chose qui m'attirait, mais j'avais pas lu le bouquin. J'ai lu dans l'avion, je trouvais ça formidable. On s'est rencontré avec Benhamar, le producteur, ici à Paris. Ça a été le coup de foudre tout de suite, c'était très détendu.
Such great respect for Jean-Jacques.
J'ai énormément de respect, bien sûr, pour Jean-Jacques. J'avais envie de travailler avec lui.
Et aussi pour moi,
cette expérience. Mais puis c'est une transition pour ma propre carrière, parce que à mesure que je me suis lancé dans le livre, je me suis rendu compte que c'était vraiment une opportunité pour moi, une surprise d'ailleurs pour ceux qui allaient me voir dans un autre rôle, et ça s'est très très bien passé.
Stéphane Woodstock. Jean-Jacques, c'est votre première réalisation, on l'a dit, pour la télé. Comment expliquez-vous ce basculement? Est-ce que ça veut dire que la liberté maintenant, et puis les moyens peut-être, ils sont à la télé?
La télévision offre beaucoup plus de choix aux téléspectateurs. Il y a un phénomène technologique qui est que beaucoup de gens ont chez eux des télévisions de bonne qualité, même si elles ne sont pas très grandes. C'est très pointu, les couleurs sont vives, le son est bon. Et il y a un effet pour les films, les blockbusters américains par exemple. Ils sont obligés de sortir le même jour dans le monde entier pour éviter le piratage. Pour avoir du public ce premier jour-là, vous vous adressez essentiellement aux adolescents. Et du coup, vous faites des films pour les adolescents de façon à pouvoir rester dans les salles, sinon vous êtes virés. Donc il y a un effet très pervers dans le cinéma, c'est que les films chers, donc spectaculaires et divertissants, ne conviennent pas toujours aux gens qui ont 25 ans et la suite. Donc ce public-là préfère souvent rentrer à la maison, être captivé par une série que l'on leur donne. Et franchement, pour moi, c'était un film de 9 heures. La différence, c'est que grâce à un acteur aussi doué que Patrick, j'ai pu souvent faire une seule prise, à caméra multiple. Et très très souvent, à la surprise de tous, je disais, on tourne la répétition, et à la fin de la répétition, je disais, c'est formidable, on passe à autre chose.
Dès le premier jour, la première prise, l'équipe était encore en train de se mettre en place, et elle dit, bon, action, et on a fait la première prise, et puis coupé. Donc, tout le monde s'est arrêté, on ne savait pas quoi faire, on est passé à la scène suivante. Et ça, ça a donné le là, en quelque sorte, le ton pour le tournage. Comme, je ne sais pas, un bœuf en jazz ou quelque chose comme ça, un peu d'improvisation, très libérateur en même temps, mais on sentait toute l'énergie, l'intensité qui augmentait parce qu'on avait qu'une seule prise. Les techniciens, les acteurs, surtout les acteurs, étaient un peu surpris parce qu'il fallait avoir tout préparé à l'avance, ça a permis de travailler très bien.
Laurent, à vos côtés dans cette série, Patrick, citons également Ben Schneider, dans le rôle de Marcus Goldman, Christine Frossette dans le rôle de Nola Kellerghan, dont on retrouve le cadavre dans votre jardin, Patrick. Jean-Jacques Hano, vous dites avoir eu la main heureuse sur ce casting. Si on prend la performance de Christine Frossette, par exemple, elle est incroyable, cette jeune actrice.
Elle est fabuleuse. Si elle ne devient pas une star colossale dans les années qui viennent, c'est que Patrick et moi, on n'a rien compris. Elle est phénoménale. Elle sait être drôle, elle sait être tragique, elle sait contenir ses émotions, elle sait les laisser exploser. Elle était impressionnante, vous savez, elle est une fille qui a 18 ans.
Je vous voyais abonder avec la tête en évoquant cette émotion, Patrick Dempsey.
On se rend compte qu'on est immédiatement ému quand on la regarde dans les yeux. On sent toute l'émotion et je l'ai suivie dans des chemins qui m'ont surpris. Elle a un talent à la fois brut, mais également très puissant avec un énorme éventail d'émotions qu'elle peut faire apparaître. C'était vraiment quelque chose de bouleversant.
Patrick, vous avez tourné une bonne trentaine de films pour le cinéma, notamment Il était une fois, Transformers 3 ou Bridget Jones 3 récemment. Après 10 années dans Grey's Anatomy, est-ce qu'il est facile de rappeler aux producteurs et aux studios, avant d'être un acteur télé, je suis un acteur tout court et donc de cinéma?
Vous savez, j'ai toujours voulu être acteur tout court, comme vous dites. Et ça n'est qu'au bout de 30 ans de carrière que j'ai commencé à faire d'autres choses que du cinéma. Le personnage de Grey's Anatomy, le docteur Mamour, là, c'était quand même quelque chose de très particulier. Les comédies romantiques, c'est encore autre chose. Et je veux quand même me challenger. Il y a un effort personnel, mais il faut vraiment se dépasser. Ça paraît important de me renouveler. Moi, je suis surtout ravi et très reconnaissant à la profession de m'avoir accueilli, de m'avoir donné ces rôles. J'adore être ici en Europe. Et surtout entouré par les représentants du cinéma français. C'est un rêve qui s'exauce d'être avec Jean-Jacques. Et après 10 ans, effectivement, de Grey's Anatomy, c'était quand même quelque chose de thérapeutique, dirais-je, de changer complètement de registre, de personnage et de pouvoir passer d'un rôle complètement, d'un rôle à un autre entièrement différent, avec une part d'improvisation, même le look était différent. Il fallait vraiment que je change de personnalité pratiquement en tant qu'acteur. Et ça, c'était formidable.
Je vous voyais les écouter, Joël Dicker. C'est intéressant parce que vous, le succès, vous l'avez déjà rencontré avec votre livre. Le public vous a déjà répondu. Et là, c'est un autre univers qui vient s'emparer de votre travail. Comment vous vivez ça?
Mais c'est fascinant parce que avoir une adaptation cinématographique à la télévision, au cinéma, a toujours été un rêve pour moi, même jeune auteur, même au début, etc. Donc c'est un rêve.
Bien sûr.
J'ai jamais imaginé qu'un seul acteur puisse jouer Harry jeune, en 1975, et Harry en 2008.
Oui.
Ça m'est jamais venu à l'esprit que ce soit possible, et je dois dire que la prouesse, et c'est une prouesse, hein, je crois que c'est le mot, que Patrick accomplit dans ce rôle est assez extraordinaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Jacques.
Ah oui, mais c'était un des challenges, effectivement, de trouver quelqu'un qui ait tout le charme nécessaire de la petite quarantaine et la crédibilité d'un personnage 30 ans plus tard. Et quand Patrick est arrivé à Paris, que je l'ai vu, ça a demandé une demi-seconde pour être séduit et pour dire, ben oui, c'est bien sûr que c'est lui.
Il est très hard to seduce him to get the role, too.
Un peu de séduction, ça permet de décrocher les coups.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin. Merci. Dans Laissez-vous tenter. On rappelle la vérité sur l'affaire Harry Québert avec vous, Patrick Dempsey, à la réalisation Jean-Jacques Haneau, adaptation de votre roman best-seller Joël Dicker. C'est à voir à partir de demain soir sur TF1 à 21h. On se retrouve dans un instant pour la suite de Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
9h15 sur RTL, on va faire un point sur nos audiences de la veille à la télévision avec Médiamétrie, Isabelle Moigny.
Il est vite fait. Qui est en tête? Eh bien, L'Amour est dans le Pré, forcément. Je dis forcément par rapport au lundi précédent. 4 500 000 téléspectateurs quasiment 30% des femmes sur M6. C'est 407 000 de plus qu'Une famille formidable sur TF1 qui dépasse tout de même les 4 millions. La déception spectaculaire est pour Premier de Cordée sur la 3. Le jeu d'aventure, moins de 500 000 téléspectateurs et 2% du public. Ça, c'est une vraie tôle. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et sur la TNT, ben, c'est W9 qui est en tête. Alors là, spectaculairement à la hausse, 1 900 000 téléspectateurs pour Red 2.
Et Star Wars, ils ont fait quoi sur TMC?
Ah oui, Star Wars. Alors, vous, Star Wars, eh ben, écoutez, c'est pas mal du tout. Oui. J'ajuste mes yeux. 1 300 000 quasiment.
Ça va. On se retrouve dans quelques instants pour vos choix télévisés. Tout de suite, la musique. Il s'appelle Tamino. Son premier album, Amir, vient de sortir. Il chantait hier soir au Café de la Danse à Paris. Bonjour, Steven Bellery.
Bonjour à tous.
Et vous avez rencontré le jeune chanteur belge.
Oui, il a 22 ans. Son grand-père, Mouharram Fouad, acteur et chanteur, était une star en Égypte. Il lui a légué un regard noir qui vous transcende, mais c'est surtout sa voix élastique et surprenante qui vous foudroie. Habibi, morceau d'ouverture d'un des disques les plus fascinants de l'automne. Tamino, c'est son vrai prénom, clin d'œil à la flûte enchantée de Mozart, envoûte avec sa musique planante, un rock lent, poétique et onirique qui voyage entre riffs de guitare et violons orientaux.
Ce mélange musical, ça arrive naturellement. Quand je crée de la musique, je ne pense pas du tout, je fais. Les chansons du disque, je les ai écrites entre mes 18 et mes 21 ans et je crois que c'était très important pour moi de capturer cet état d'esprit. Cette forme de naïveté, cette confrontation entre la raison et la passion. Vous avez peut-être remarqué que ma musique peut rendre les gens mal à l'aise, ça vient de si profond en moi. Il y a beaucoup de couches musicales, mais bon, pour beaucoup de gens, ma musique fait du bien. J'ai joué beaucoup d'instruments sur l'album, ça demande beaucoup d'implication. Mais l'instrument qui m'a demandé le moins de travail, c'est ma voix. Je n'ai jamais vraiment eu besoin de cours à part pour respirer. Je chante toujours avec ma voix pleine, avec toute ma gamme, et j'ai la chance d'avoir un falsetto, un joli cadeau, un son qui résonne comme un pleur, donc il ne faut pas en abuser.
Some meaning. It feels like I've always been blind. I don't know why you girls are so kind, but there are so many.
S'appelle Tamino, le premier album de cet auteur, compositeur, interprète est un bijou. Allez écouter Amir, 12 titres épatants. Tamino chantera ce soir à Strasbourg, samedi à Comines, le 4 mars à Lyon, le 6 mars à La Cigale à Paris ou le 7 mars à Senon.
jour découvrir des trucs incroyables, vous.
Voilà. Oui, j'ai quelques petits cadeaux.
Tamino. Merci beaucoup, Stephen Bellery. Dans quelques instants, on s'intéresse à votre soirée télévisée et en particulier à un jeune homme qui est footballeur et que vous retrouverez ce soir dans un documentaire sur M6. À tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Notre soirée télévisée. Alors, je sais que vous avez aimé les pouvoirs extraordinaires du corps humain,
oui,
Isabelle Roy-Bosque.
D'autant qu'on nous y apprend comment vieillir jeune, ça urge. Enfin, ça, je parle pour moi. Hein. Et puis, bien. Je signale aussi sur la 5 un excellent reportage sur la difficulté du quotidien de toute personne ayant un handicap, oui, physique ou mental. Mais le mental, ils l'ont, hein, vous verrez. En attendant, je vous redonne la parole.
Vous êtes très aimable. Alors, moi, je vais vous la rendre, puisque vous allez nous parler du doc d'M6 consacré à notre prodige incroyable du football français, Kylian Mbappé. Ce sera, en l'occurrence, après le match France-Uruguay. Hein.
Exactement. Tout est dit. Je vais quand même continuer parce qu'il m'a beaucoup intéressé. Vous savez que je n'ai pas beaucoup d'amour pour le foot. Ce reportage consacré à l'as du football, Kylian Mbappé, oui, ça échappe franchement à la spécialité. 20 ans en décembre prochain. Je vais commencer par la fin, par cette conclusion du journaliste Grégory Schneider, qui est aussi un début.
À son âge, Messi avait mis 20 buts en professionnel. Cristiano Ronaldo en avait mis 19. Lui en a mis 79. Il n'y a rien, ça mesure en fait.
Comme le font tous les témoins racontant leur Kylian, fils d'une handballeuse pro et d'un éducateur sportif de Bondy, ou officier aussi Fanfan, directeur technique de l'AS Bondy, encore sidéré aujourd'hui.
On a fait oula, quand le petit avait le ballon dans les pieds, à 4-5 ans, tu dis il y a quelque chose là. Il avait un vrai talent. Mais le talent, c'est pas nous. Après, il s'est entraîné avec des potios de son âge, 6-7 ans. Bon, le petit, on va le monter là-haut, hein. On va le mettre avec 18 ans, hein. C'est mieux pour lui, hein. Voilà, et à chaque fois, c'était comme ça. Dans chaque catégorie, même quand on surpassait, ce qui faisait techniquement, il le faisait 100 fois plus vite que les autres.
Même moi, je suis médusée en voyant les images quand il a 5-6 ans, par son jeu de jambes, Festival de Cannes, pas vrai. Dès le primaire, il se voit footballeur, même s'il a une passion passagère pour la flûte traversière.
Ah, c'est drôle.
Et c'est pas du pipeau. En classe, il est turbulent, c'est là qu'il est sur le banc de l'école, mais surtout sur le banc de touche. Sur le terrain, en revanche, tout va bien. Dès 8 ans, il est un demi-dieu très observé par l'étranger. Le journaliste de Libé, Grégory Schneider, se souvient.
On était allé suivre une journée de détection. Alors c'est quoi une journée de détection? Vous mettez des gamins sur des plaines de jeu, vous les faites changer d'équipe tout le temps et vous avez tous les recruteurs qui sont là. Et c'est pas moi qui étais, c'est quelqu'un du journal et il voit un gamin au milieu des autres qui ne fait rien, qui ne court pas, qui réclame pas le ballon, qui rigole. Il se dit, il y a quelque chose qui va pas. Cette désinvolture alors que chaque gamin avait l'impression de jouer sa couenne, ça jurait quand même. Et il finit par tomber sur quelqu'un qui dit, c'est Mbappé. Il dit, tout le monde l'a déjà. Il y a la Juve qui l'appelait, il y a Manchester qui l'appelait, il y a l'Inter qui l'appelait, il y a tous les clubs français qui l'appelaient. Il était déjà hors logique de détection.
Voilà, tout souligne son humilité, sa maturité exceptionnelle, sa gamberge intellectuelle, sa rhétorique, son écoute. Mais alors on évite tout de même le zéro défaut quand on évoque l'évocation de ses débuts à Clairefontaine.
Les débuts à Clairefontaine sont compliqués. Il était droit à Bondy. Cette fois-ci, il se retrouve avec des joueurs comme lui qui ont l'ambition d'être professionnels, qui ont comme lui de très grosses qualités.
Dans notre promotion, c'était pas forcément le meilleur.
Il n'était pas excellent par rapport à nous. Il sortait pas du lot.
On l'a pas vu au-dessus. Comme il était un peu en retard physiologiquement, comme certains joueurs, il faisait très bébé. Ici, les autres l'avaient surnommé MBB parce qu'il boudait. Bah oui, comme tous les petits, il boudait. Mais bon, dès qu'il était sur le terrain, ça rayonnait.
Voilà, MBB. Alors, c'est peut-être un bleu à tous les sens du terme, mais déjà très fort en rhétorique. Alors, a fortiori, aujourd'hui, à en croire son biographe.
Il est clair qu'il y a un langage Mbappé. Il arrive à porter des nuances qui donnent beaucoup de relief à son discours et beaucoup de finesse. Il donne une conférence de presse 3 jours avant le début de la Coupe du Monde, atomique. Tout le monde comprend qu'il est venu dire « c'est mon équipe » ou pas loin. À un moment donné, il y a une question perverse. Est-ce que vous voyez Paul Pogba comme un patron? On sait que lui ne voit pas Paul Pogba comme un patron. Ça, il va pas nous le dire. Il lève les yeux au ciel, il dit « ah Paul, vous connaissez comme moi, Paul c'est Paul ».
Ouais, Paul. Non, sur le terrain, c'est Paul. Il est créatif.
Il le folklorise un peu.
C'est son personnage, on peut pas le changer. Et moi, ça me gêne pas, au contraire.
En fait, ce qu'il essaie de vous dire, c'est vous lui confieriez pas vos clés de bagnole, moi non plus. C'est là qu'il est grand. Il dit, c'est vrai qu'il a un charisme, il est capable de montrer le chemin à certains.
Il emmène beaucoup de gens avec lui.
Ça veut dire possiblement pas lui. Et il s'arrête là-dessus. Il a jamais lâché le mot patron. Et tous ces codes-là, il les maîtrise, mais au millimètre.
Alors Kylian est inimitable, sauf pour son pote Malik Bentala.
J'aime bien imiter Kylian quand il part sur ces trucs de « Non, mais moi, tu me parles pas d'âge. » Moi, il n'y a pas d'âge. Je trouve qu'on a fait un bon match maintenant. Il est vrai qu'il est nécessaire et surtout très indépendamment de ma volonté. Il est très important que la constitution soit réécrite parce qu'aujourd'hui, en termes de projet sportif et d'équité, c'est très important. Mais moi, tu me parles pas d'âge. J'aime bien son côté super énervé, quoi. Et je comprends exactement ce qu'il ressent parce que quand tu parles à tes aînés, que ce soit dans le milieu de l'humour, dans le milieu du foot, il y a un côté « t'as le temps ». Mais non, il n'y a pas le temps aujourd'hui, ça y est. Tu vois, c'est le talent qui doit parler et souvent, quand on donne son âge, on a du mal à y croire.
Oui, Mbappé, tout en finesse, c'est très la valeur n'attend pas le nombre des années.
Bien sûr.
Mais moi, ce que je préfère, c'est sa capacité à rester calme en pleine explosion, de joie notamment. La conclusion à Malik Bentala.
Après la finale de la Coupe du Monde en Russie, je lui ai dit par exemple, ça y est, t'es au sommet du monde, t'as gagné la Coupe du Monde. Il me dit, ouais. Mais bon, il y a la Coupe d'Europe, on n'a pas gagné la Coupe d'Europe encore. Je lui ai dit, mais tu te drogues, c'est pas possible. On a fait la fête et Kylian, toujours la fête qui dépasse pas. Un Yop fraise, deux bichocos, ses parents lui racontent une histoire au lit à 20h30. Tu vois. Vraiment, c'est la fête choupi. C'est choupi.
Un yaourt fraise de Michoco.
Moi, j'aime bien ce côté-là. Alors, le plus de l'émission, ce sont de formidables archives. Alors, le moins, la seule chose que j'ai pas aimée, c'est une musique omniprésente, crispante, épuisante. Quand c'est un boyau musical, franchement, c'est pas nécessaire. Alors, les gens qui ont des problèmes d'oreilles comme moi, ils saisissent pas le sel des propos.
Je vous rassure, pas besoin d'avoir des problèmes d'oreilles pour trouver ça insupportable. On regardera ça avec beaucoup de curiosité ce soir sur M6. Vous me rappelez l'horaire, s'il vous plaît.
Après la diffusion
après
du match.
Dès la fin du match.
Donc, si j'ai bien compris, il ne faut pas qu'il y ait de prolongation.
Que vous suivrez bien entendu aussi sur RTL. Dans un instant, nous accueillons Julien.
Il n'y a pas de prolongation pour un amical, me semble-t-il.
Ah bon ?
Non.
Ah bon ? Bah voyez, même ça, je ne savais pas. Je croyais vous crâner un peu.
C'est tombé à l'eau.
J'ai tenté.
Voilà, Courbet nous attend. Merci à toute l'équipe. On retrouve tout de suite Julien Courbet. Bonjour, cher Julien.
Oui, j'étais là, pardon. En train de vérifier que tout était en place. L'électricité est là. Oui. C'est du 200 watts.
Vous avez l'eau, le gaz,
tout l'eau,
ça.
L'eau, le gaz, j'ai tout va bien.
Ah, mais c'est le confort moderne à Neuilly.
Ah, mais là, j'ai l'impression qu'on est passé à autre chose. Je me rappelle le temps où on est obligé de faire pédaler Bernard Sabat pour faire tourner la machine.
Oui, mais du coup, il a conservé une ligne impeccable.
C'est vrai. Voilà. Même ses limites, si on a l'impression qu'il n'est pas malade. Bon, eh bien, écoutez, on va démarrer.
Voilà.
Et merci pour tous ces gentils mots sur le documentaire d'Mbappé. Mais là, c'est pas du tout du Mbappé dont on va parler, c'est de Josiane.
Vous écoutez RTL.